La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos experts au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous parlerons ce matin de la campagne électorale au Sénégal. Une campagne, vous le savez, endeuillée par la mort d'au moins deux personnes à Tambacounda. Une campagne également marquée par le retour au Sénégal d'Abdoulaye Wad. L'ancien président n'en démord pas. Il veut coûte que coûte empêcher la tenue du scrutin du 24 février. Scrutin qu'il juge verrouillé. Il a notamment appelé les Sénégalais à brûler leur carte d'électeur le jour du vote. Alors que vous inspire le climat de cette campagne ? Êtes-vous surpris finalement par les violences physiques et verbales de ces derniers jours? Comment ramener le calme? Contactez-nous, appelez-nous, témoignez en direct sur l'antenne d'RFI, 33 9 693 693 70. On prendra d'ailleurs dans quelques instants plusieurs questions sur ce scrutin présidentiel au Sénégal, mais d'abord une autre élection qui se tiendra au mois d'avril, le 18 avril en Algérie. Bonjour Aoui.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI, vous nous appelez de Bujumbura et vous avez des questions concernant le président Abdelaziz Bouteflika.
Oui, Juan. Après 4 mandats consécutifs, Bouteflika veut briguer un 5e. C'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, comment expliquer cette faible réaction de la population et de l'opposition algérienne face à cette déclaration?
Ah, vous attendiez peut-être à davantage de contestations, peut-être également à des manifestations. Leïla Berato, bonjour.
Bonjour Juan.
Correspondante de RFI à Alger, au pouvoir donc depuis 20 ans maintenant, Abdelaziz Bouteflika a officialisé sa candidature. En Algérie, disons-le Leïla Berato, personne ne doutait de la candidature du président sortant.
Oui, effectivement, la candidature officielle a été annoncée ce dimanche, mais cela faisait plus d'un an que des organisations proches du président, dont principalement le Front de Libération Nationale, le parti historique, avaient lancé un appel pour qu'il se présente. Ceci étant fait via des meetings et des déclarations à la presse. Alors l'impact, selon les observateurs politiques, eh bien, ça a été la sidération en fait de ceux qui sont contre une telle candidature. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ainsi, ce sont ceux qui sont favorables à un cinquième mandat qui semblent plus nombreux et mieux organisés. Ensuite, en ce qui concerne l'opposition, alors il faut savoir que cette opposition politique est fragile, divisée. Il y a bien eu un rassemblement assez inédit en 2014 avec des partis très différents, hein, les islamistes, les démocrates, mais aussi des universitaires, des personnalités de la société civile et aussi d'anciens membres des autorités comme Ali Benflis ou Mouloud Amrouche. Cette coalition s'est divisée petit à petit parce qu'il y a des enjeux de pouvoir interne au parti, mais aussi parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de discuter ou non avec les autorités. Et il faut aussi comprendre que ce qui structurait la société civile, les associations, les intellectuels, les syndicats, et qui pouvait être un terreau pour l'opposition politique, eh bien, ceci a été dévasté par les années 90 et la période du terrorisme. De nombreux militants ont été assassinés et de nombreux autres ont quitté le pays. Et depuis les années 2000, la politique des autorités vis-à-vis des associations et des syndicats, par exemple, n'a pas permis à ces derniers de se renforcer.
Alors, s'interroge également sur l'absence de réaction des citoyens, des Algériens. Et j'ai cru comprendre à travers sa question qu'il s'étonnait tout de même de l'absence de manifestations pour dénoncer cette candidature.
Alors, en réalité, les Algériens ont réagi. Hein. Il y a eu une vague de désapprobation assez importante sur les réseaux sociaux, des appels à signifier son désaccord en modifiant sa photo de profil, par exemple, ou via le mot-clé « non au cinquième mandat ». Et ces réactions sont plus importantes que celles qu'il y a eu Il y a 5 ans, lors de l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat. Mais il faut comprendre une chose, quand les Algériens désapprouvent quelque chose politiquement parlant, ils ne descendent pas en fait dans la rue pour manifester. D'abord parce que la politique, c'est quelque chose qui semble éloigné de leur quotidien, quelque chose sur lequel ils pensent n'avoir que peu de prise. Ensuite, parce que les manifestations sont parfois interdites ou empêchées à l'aide d'importants dispositifs de sécurité. Et enfin, parce qu'ici, l'usage de la violence est une ligne rouge. On revient encore à l'impact de la décennie de terrorisme. Et puis pour finir, il y a un dernier facteur déterminant. Abdelaziz Bouteflika bénéficie d'un immense soutien au sein de la population. Il est populaire, il a l'image de celui qui a aidé au développement du pays, notamment via sa politique de logement et de construction d'infrastructures. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'Algériens, il est important que la dynamique se poursuive ainsi.
Et on aura l'occasion vendredi dans la Libre Antenne de revenir sur l'officialisation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, malade depuis son accident vasculaire cérébral en 2013, 82 ans bientôt, et il brigue donc un 5e mandat. Ah oui, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci, j'ai bien compris.
Tant mieux, on vous souhaite une bonne journée à Bujumbura et on remercie surtout Leïla Berato, correspondante de RFI à Alger. Je vous le disais en début d'émission, des questions sur la stratégie de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade. Il est rentré au pays jeudi dernier. Guillaume Thibault, correspondant permanent de Dakar, est avec nous. Nous l'avons contacté évidemment pour vous répondre. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Elias nous appelle du Bénin. Il est à Aplaoué. Bonjour Elias.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les techniciens et journalistes du RFI.
Merci de vos encouragements. Nous vous écoutons.
Monsieur Juan, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade appelle au boycott des élections présidentielles prochaines. Par quel argument Abdoulaye Wade compte convaincre les électeurs à ne pas aller voter ? A-t-il une chance d'être entendu ?
Guillaume Thibault, l'ancien président Abdoulaye Wade n'était pas revenu dans son pays depuis un an et demi, depuis les législatives de juillet 2017. Il répète qu'il ne veut pas que l'élection présidentielle se tienne avec, disons-le Guillaume, des explications plus ou moins radicales.
Exactement, on va revenir sur ce retour médiatique, politique, qui en fait s'est déroulé en 3 étapes. Et l'objectif, il faut dire, le but recherché par Abdoulaye Wade, il n'est toujours pas très clair. Avant de rentrer au pays, l'ex-président a diffusé, souvenez-vous, une courte vidéo qu'il a enregistrée en France, chez lui, dans laquelle il a donc appelé au boycott de l'élection. « La candidature de mon fils Karim a été rejetée par le Conseil constitutionnel, donc je n'ai pas de candidat pour me représenter. Je ne vois pas pourquoi j'irai voter », a déclaré l'ex-président, qui critique aussi dans cette vidéo Macky Sall. Il estime que le président sera de toute façon réélu, car il a verrouillé le scrutin, car il a violé les règles les plus élémentaires de la démocratie. Seconde phase de ce retour, elle est beaucoup plus virulente. Jeudi dernier, Abdoulaye Wade, quand il est arrivé à Dakar, il a fait le tour de la banlieue et il a prononcé dans la soirée un discours en Wolof devant le siège de son parti. Le PDS, il a alors appelé à empêcher l'élection en détruisant les cartes d'électeurs et en brûlant les bulletins de vote dans les bureaux le 24 février à l'occasion du premier tour. Ça a choqué de nombreux Sénégalais. Et puis le lendemain, 3e étape, les arguments ont été moins radicaux. C'était vendredi, Abdoulaye Wade a rendu visite au Ralif général des Mourides dans la ville sainte de Touba. À la sortie de cette visite, ses propos ont été moins agressifs, mais il a encore une fois répété qu'il voulait empêcher l'élection.
Oui, en tout cas, l'argument principal d'Abdoulaye Wade, c'est donc de dire qu'il n'a pas de candidat, puisque son fils n'a pas pu se présenter suite à ses déboires judiciaires. La question d'Elias est pertinente. L'ancien président est-il entendu, est-il suivi aujourd'hui par ses militants, les électeurs ?
L'objectif annoncé de l'ex-chef de l'État, Juan, c'était d'organiser des meetings et des manifestations dans tout le pays. Il faut le dire, pour le moment, c'est un échec, car il n'a pas été suivi. La raison principale, c'est que les sympathisants de son parti attendent depuis des mois Karim Wade, qui est toujours au Qatar, alors qu'il a promis à maintes reprises de rentrer au pays. C'est lui qui est dans le fond le candidat du parti, c'est pas son père. Et certains donc en veulent à Karim, car il estime qu'il n'a pas fait face à ses responsabilités ces derniers mois. Abdoulaye Wade fait du bruit, On le sait, c'est un stratège, sans doute l'un des meilleurs depuis 40 ans en Afrique de l'Ouest. Mais il faut dire, la sauce n'a pas pris. Ses militants, la rue, ne l'a pas suivi sur les réseaux sociaux. Sa posture radicale a d'ailleurs été très critiquée, car les Sénégalais, un, n'aiment pas être pris en otage, et ils n'aiment encore moins la violence politique, surtout à quelques jours d'une élection présidentielle.
Effectivement, et on a vu les nombreuses réactions après les affrontements lundi à Tambacounda. On aura l'occasion de revenir sur cette violence électorale au Sénégal dans une vingtaine de minutes, dans la deuxième partie de l'émission. Guillaume Thibault, reste avec nous encore quelques instants. Autre question, autre auditeur, Salif, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Vous souhaitez revenir également sur la stratégie de l'ancien président Ouad?
Oui, effectivement.
Eh bien, allez-y.
Donc, voilà. Merci. Donc, l'appel d'Abdoulaye Ouad a reçu un accueil mitigé au sein du PDS. Voilà, aujourd'hui, quelle stratégie le PDS va-t-il adopter face à cette déclaration de Maître Ouad? Le PDS va-t-il appeler à voter pour un autre candidat?
Alors, vous le disiez, Guillaume Thibault, à l'instant, que l'appel d'Abdoulaye Ouad n'avait pas été entendu, que pour l'instant, c'était plutôt un échec. Mais quid des cadres du PDS, parti qui, rappelons-le, a été fondé par Abdoulaye Ouad lui-même au milieu des années 70. Et le parti est tellement verrouillé par l'ancien chef de l'État que, finalement, j'ai comme l'impression qu'il y a peu de cadres qui souhaitent s'exprimer pour l'instant.
Exactement. Hein. Depuis lundi, d'ailleurs, Abdoulaye Ouad a lui arrêté ses sorties publiques. Il reçoit chez lui, il multiplie les entretiens avec tous ses cadres. Et le PDS, c'est que pour l'instant, le parti, on a l'impression qu'il est divisé en deux. Il y a les proches, les intimes du président et de son fils Karim, qui reprennent ses déclarations, qui vont dans son sens. Et puis, il y a d'autres cadres qui sont, on peut le dire pour le moment, sur la touche. Ce sont des voix qui, en interne, ont osé remettre en question la candidature de Karim Ouad dès son départ, dès sa libération de prison et son départ pour le Qatar en juin 2016. Pour le moment, aucune consigne de vote n'a été donnée, n'a été évoquée. Ce qui pose justement la question de l'objectif d'Abdoulaye Ouad. Certains éditorialistes ici n'excluent pas la possibilité qu'Abdoulaye Ouad ne cherche en fait qu'à obtenir l'amnistie de son fils auprès de Macky Sall. Car on le sait, boycotter, appeler au boycott d'une élection présidentielle, cela se fait souvent le jeu du sortant. La société civile a d'ailleurs été très critique avec l'ex-président sur ce point. Abdoulaye Ouad devait aussi rencontrer Khalifa Sall à la prison de Dakar. Ce n'est toujours pas le cas. On aura peut-être un début de réponse ce soir, Juan. Pourquoi? Parce que le PDS, le Parti démocratique sénégalais, réunit son comité directeur et la réunion sera bien évidemment dirigée par Abdoulaye Ouad.
Et vous serez sur place très certainement. Le PDS va-t-il appeler à voter pour l'un des quatre candidats de l'opposition? En tout cas, l'autre grand absent de la présidentielle, Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, lui s'est rallié à Idriss Assek. La campagne électorale au Sénégal, on en parle dans un quart d'heure maintenant. Continuez à nous rejoindre. 33 9 693 693 70. Postez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'ai par exemple, je le lis, je le découvre, Cédina, qui est à Dakar, il est étudiant en droit à l'UQAD, donc l'université Cheikhanta Diop. Il nous dit je suis un grand admirateur de Maître Ouad, mais là, il ne se bat que pour son fils, il ne m'empêchera pas d'aller voter le 24 février. Voilà pour la réaction spontanée de cet étudiant de Dakar. Il nous reste encore 5 minutes, le temps de prendre tout de même une dernière question ce matin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Conakry, en Guinée, et vous avez des questions sur la fièvre de Lassa qui sévit actuellement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Merci Juan. La fièvre de Lassa, qui est une épidémie de plus en plus fréquente en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, en Sierra Leone et en Guinée, où des nouveaux cas ont été récemment diagnostiqués.
Oui.
Je veux savoir, comment peut-on expliquer la résurgence de la maladie?
Alors, effectivement, c'est vrai que le Nigeria recense déjà 42 morts et 213 cas confirmés. Deux autres personnes sont mortes sur 12 cas confirmés au Bénin, au Libéria, au Togo et en Guinée. La Guinée, d'où vous nous appelez, Emmanuel, pour l'instant, un seul cas a été confirmé. Un homme de 35 ans décédé le 29 janvier à Mamou, dans le centre du pays. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Rappelons que la fièvre de Lassa est une fièvre émotionnelle. hémorragie causée par un virus de la même famille que le virus Ebola. Comment expliquer la résurgence de la maladie?
Alors, ce virus Lassa est endémique dans ces pays. Ça veut dire qu'il est présent naturellement chez un petit rongeur, un rat très commun. On dit que ce rat est le réservoir du virus de Lassa. Plus précisément, le virus est transmis à l'homme par contact avec les excréments de l'animal. Ce rat vit près des habitations et les contacts avec l'homme sont très fréquents. Selon l'Institut Pasteur, dans certaines zones, 80% de la population de rats peut être infectée. Alors on comprend donc pourquoi la fièvre de Lassa réapparaît fréquemment dans ces pays. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on observe quand même de plus en plus de cas chaque année. C'est aussi dû au flux de population qui augmente entre les pays africains et au sein d'un même pays. Car le virus peut aussi être transmis d'homme à homme, comme Ebola, par les contacts avec les fluides d'un malade, les urines, la salive.
Ouais, si on prend par exemple le cas de cette personne en Guinée, le seul cas confirmé pour l'instant depuis la fin du mois de janvier, a priori selon les premiers éléments de l'enquête sur place, l'homme qui est mort n'a pas eu de contact avec le Nigeria, où il y a actuellement, vous le disiez, une flambée de fièvre de Lassa. Emmanuel, vous avez une autre question ?
Oui, Juan, où en sont les recherches et quels sont les moyens mis à la disposition de la population pour traiter la maladie?
Alors, les recherches, j'imagine, les recherches scientifiques, pour l'instant, Jeanne Richard, il n'y a pas de vaccin.
Alors, pour l'instant, effectivement, alors, déjà, les médicaments qui sont disponibles sont pas toujours efficaces. Et il n'y a pas de vaccin, effectivement, contre la fièvre de Lassa. Mais plusieurs sont à l'étude et ont donné des résultats prometteurs lors des tests effectués sur les singes. On peut espérer, dans les années qui vont venir, on ait enfin un vaccin.
Ouais, s'agissant de la mobilisation, les moyens mis en place par les États. On a bien vu sur le terrain que depuis la grave épidémie d'Ebola il y a quelques mois, les politiques de santé avaient tout de même évolué.
Oui, alors aujourd'hui, les systèmes d'alerte, les réponses des autorités et la communication à la population, donc tout ça c'est très important, et tout ça s'articule beaucoup mieux et beaucoup plus transparent. Concrètement, quand un cas est confirmé, les autorités nationales et internationales, les partenaires comme l'Organisation Mondiale de la Santé, sont informés. Ensuite, des équipes sont dépêchées sur le terrain pour mener des enquêtes, identifier les personnes qui ont pu entrer en contact avec le malade et qu'il faut surveiller car ils peuvent développer la maladie, pour aussi informer la population sur la manière dont on peut attraper la maladie, sur les symptômes, sur les précautions à prendre, par exemple bien se laver les mains, ne pas toucher les malades, etc. Pour mener aussi des campagnes de dératisation pour éliminer le plus possible de rats porteurs de la maladie. Il peut également y avoir des formations pour les personnels de santé, des renforts de matériel, de médicaments, s'assurer que les stocks sont suffisants en cas d'épidémie. Et puis des bulletins d'information sont régulièrement émis par les autorités avec toutes les données sur l'évolution de la situation.
Emmanuel, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Juan, je vous remercie.
Et remercier surtout Jeanne Richard du service Afrique des RFI qui est venue vous répondre. À bientôt, Jeanne.
Merci.
Merci à vous. Vous avez peut-être pris l'émission en cours. Vous souhaitez réécouter les réponses de nos experts au sein de la rédaction de RFI. Eh bien, rendez-vous dans quelques instants, dans quelques minutes sur notre application Pure Radio ou sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions et vous pouvez écouter, réécouter à volonté, évidemment, les explications, les analyses de nos journalistes de RFI. Il est 9h28 à Paris, il me reste une bonne minute 30, le temps de vous rappeler que la semaine prochaine, à l'occasion du forum de Bamako, nous allons vous proposer deux émissions spéciales consacrées à l'immigration. Alors pourquoi l'immigration ? Eh bien parce que cette année, le forum de Bamako va réfléchir, va débattre autour de cette vaste thématique. En tout cas, nous avons choisi deux angles. D'abord, nous allons parler de l'immigration intra-africaine, car contrairement aux idées reçues, 80% des migrations africaines s'opèrent à l'intérieur du continent et non de l'Afrique vers l'Europe. Il me semblait donc intéressant de vous demander si cette immigration intra-continentale était une chance pour l'Afrique. Comment ces flux migratoires sont-ils vécus dans les pays d'accueil ? Avez-vous l'impression que, comme en Europe, l'immigration suscite des réticences, suscite des peurs, une montée peut-être du discours nationaliste. Bref, on a envie de vous entendre sur cette thématique. Et puis l'autre débat que nous lancerons portera sur l'insécurité alimentaire. C'est l'une des causes des migrations en Afrique. Et on essaiera de comprendre comment et pourquoi l'Afrique ne parvient pas à mettre en place sa révolution africaine comme l'ont fait de nombreux pays de l'Asie du Sud-Est. Reste à l'écoute des RFI, on revient dans 10 minutes et on parle de la campagne électorale au Sénégal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.